toute la nuit.
Réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac. Le statoscope de Fabien et Carole.
On va parler séance, on va parler réunion aujourd'hui avec cette étude des spécialistes qui se sont penchés sur la question du pire et du meilleur moment pour une séance, pour une réunion de travail durant la semaine. Toi, tu me disais il y a quelques instants, ouais, puisque je t'ai posé la question, que le pire moment pour toi, c'est le vendredi.
Bah oui, le vendredi en fin de journée ou l'après-midi, quand tu vois ta tête est déjà en week-end et qu'en fait ton boss te dit bah non, il y a séance, on va encore travailler, etc. Alors que véritablement, tu lâches la rampe, quoi.
Ouais, exactement. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que le vendredi, des fois il faut faire plein de choses, on a plein de choses à faire avant de partir en week-end, ouais. Et moi je trouve que c'est pas forcément le meilleur moment pour une séance, pour une réunion de travail. J'aurais répondu exactement la même chose que toi,
ça,
si on m'avait posé la question. Et bien force est de constater que ce n'est pas vraiment le vendredi qui est le pire jour de la semaine pour une séance de travail, c'est le lundi,
le lundi.
Et plus particulièrement le lundi matin,
début de semaine, ouais. Paf, dans le bain.
Et alors, quand on me dit ça, moi je me dis bah c'est parce que le lundi on est encore un peu dans le brouillard, on est encore un peu la tête dans le week-end,
ouais.
Et bien pas du tout, c'est pas pour cette raison que c'est le plus mauvais jour de la semaine. C'est tout simplement parce que le lundi matin, c'est le moment dans la semaine où on est le plus productif. Voilà.
D'accord.
Et que de mettre une séance de travail, interrompre cette productivité par une séance, par une réunion de travail,
ça ralentit.
Eh bien voilà, ça ralentit. C'est une erreur à ne pas commettre.
Oh là 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 là, c'est une erreur qu'on commet ici, hein.
Eh oui.
Eh oui, j'ai Radio Lac.
Souvent des séances.
J'embrasse par exemple tout le département de la régie qui ne nous écoute pas à cette heure-ci parce qu'ils sont généralement ils commencent à 9h.
Ouais.
Oui, donc généralement 6h50 ils nous écoutent pas. Eh bien eux, ils ont tous les jours, tous les lundis par une séance très tôt le matin.
Donc ça, il faudra leur dire que c'est pas bien.
Pas
bien
productif.
Du tout. En revanche, ces mêmes spécialistes nous expliquent quel serait le meilleur moment de la semaine pour une séance. Eh bien, ce serait juste le lendemain, le mardi. En début d'après-midi, durant l'après-midi, aux alentours de 14h30, il paraît que c'est vraiment le meilleur moment pour une séance.
Pendant la digestion, impeccable. Alors moi, je veux dire, ça c'est vraiment aussi les réunions à 14h, alors que tu sors de repas. Oh, et moi, je passe mon temps à bâiller. Hein.
Nous, à 14h30, on est déjà en pleine sieste.
Ah, mais
donc,
clairement,
c'est pas possible.
Bah non, c'est pas possible. Voilà. Impossible.
Donc, pire jour de la semaine, pire moment, c'est le lundi matin. Et meilleur moment pour une séance ou une réunion de travail, eh bien, c'est le mardi à 14h30. Voilà, vous êtes averti. Vous, elles sont quand vos séances? Tiens, on aimerait bien savoir. On va faire un petit sondage ce matin.
Et si justement vous avez séance le lundi matin, est-ce que ça a tendance véritablement à vous endormir, à vous empâter, hein, au lieu de justement laisser libre cours à votre productivité?
Réagissez sur le WhatsApp de Radio Lac 079 918 3000. Qui pense que les séances ça ne sert à rien? Moi, je lève la main. Voilà.
Le meilleur de Lac en replay
sur la nouvelle application Radio Lac.
Thank you.
sur Radio Lac.
Sur Radio Lac.
Ça se plaît ou pas?
Avec Maître Alessandro De Lucia, bonjour.
Bonjour Sophie Gaillard.
Le droit est à l'honneur dont il suffit de demander. Alors, j'ai envie de parler d'argent, de sous, de thunes, de cash, de money.
Vous êtes vénal comme ça?
Bouf, non, mais je pense surtout à moi, quoi, vous voyez.
Bon, alors allons-y, c'est quoi la question?
Si je reçois un bonus chaque année, est-ce qu'à la fin, il est dû? Ça fait des années que j'ai la même somme, genre par exemple la prime de Noël, on va dire. Ouais. Et si un jour on me donne une somme inférieure ou qu'on m'en donne pas, est-ce que ça, c'est, je peux plaider ou pas?
Alors, c'est une très très bonne question.
Merci.
Pourquoi pas? Bah oui, parce que en fait, les composantes du salaire sont pour les gens, c'est assez évident. Je dis, j'ai un salaire, un bonus ou autre, et on met tout dans le même panier. Or, en droit, il faut souvent définir ce dont on est en train de parler. Et typiquement, donc, le droit suisse contient aucune définition d'un bonus, ce qu'on appelle bonus. Il convient donc de déterminer dans chaque situation et en fonction de la volonté des parties au moment où on signe le contrat, si on est en train de parler d'un salaire ou par exemple d'une gratification.
Eh oui,
alors, le salaire, c'est quoi? Le salaire, c'est la rémunération que l'employeur est tenu de verser au travailleur pour les prestations ou le temps que celui-ci a consacré à son service. Oui. Normalement, le salaire est fixé dans le contrat, en tout cas dans les rapports. Le 13e salaire suit le sort du salaire. C'est une part du salaire qui est prévue en plus, qui est généralement aussi prévue dans le contrat.
Oui.
Mais là, par exemple, je vais vous rajouter que le 13e salaire n'exclut pas une gratification. Mais le salaire, vous savez, souvent, il est au prorata aussi.
Ah,
durant l'année, si vous
on a un 13e salaire, on peut quand même avoir un petit bonus en fin d'année.
Alors, on peut avoir un bonus. Le bonus ou gratification, si on veut parler français, est une rétribution spéciale versée par l'employeur en sus du salaire habituel. Et à certaines occasions, selon la volonté des parties, l'employé peut y avoir droit ou non lorsque celle-ci est accordée au bon vouloir de l'employeur. Une gratification peut être soumise à des conditions.
Mmh.
Alors là, suivez-moi bien, parce que ça va peut-être répondre à votre question. Ouais, suivez-moi, Sophie. Lorsque son montant est déterminé ou objectivement déterminable, c'est-à-dire lorsqu'il était promis par un contrat dans son principe et que son montant ne dépend pas de l'appréciation de l'employeur, il faut considérer la gratification comme un élément du salaire variable de l'employeur et l'employeur est tenu de la verser.
D'accord.
Donc encore une fois, quand on peut à l'avance la déterminer, c'est dû. Okay. A contrario, quand vous ne pouvez pas la déterminer, c'est pas prévu et donc ce n'est pas dû. C'est pour ça que l'employeur généralement fera bien de dire, au moment où il verse le salaire par écrit ou en tout cas par oral, c'est à bien plaire.
C'est à bien plaire, Isabelle.
C'est à bien plaire. C'est je décide
pas,
de vous
expression.
Donner. À bien plaire, oui.
Ouais, non, mais je ne connaissais pas. Non, mais c'est bien.
Il me plaît de vous donner un bonus, bien
d'accord,
que je ne sois pas votre employeur, donc vous n'aurez pas de bonus de ma part.
Ah, zut.
Donc, dans cette situation, il faut distinguer deux cas de figure. Les parties ont convenu contractuellement du versement de ce bonus, sans pour autant fixer le montant. Il s'agit d'une gratification que l'employeur est tenu de verser, c'est ce que je viens de vous dire. L'employeur bénéficiera néanmoins d'une marge de manœuvre sur la fixation de ce montant. Les parties ont par contre réservé tant le principe que le montant d'un bonus. Il s'agit d'une gratification facultative, l'employé n'y a pas droit, sous réserve de certaines exceptions. Même en cas de gratification facultative, il se peut que l'employeur doive verser la gratification.
Ah.
Si elle a été accordée plusieurs années de suite, 3 ans au moins, et que l'employeur ne précise pas qu'elle a été versée à bien plaire ou s'il n'émet pas de réserve en rapport avec le but de la gratification, c'est dû. Si elle est versée, vous pouvez expliquer vos collègues. Si elle est versée à tous les collègues directs d'un employé et qu'il ne peut lui être reproché une mauvaise exécution de ce travail, c'est dû.
D'accord.
Et enfin, selon le principe de l'accessoriarité, la gratification doit garder un caractère accessoire, c'est-à-dire que ça vient en plus.
Merci, Maître Alessandro De Lucia. Bon, on sait à quoi s'attendre. Alors, on vous retrouve, toutes vos coordonnées sont sur le podcast. Hein, quand vous cliquez sur le podcast pour l'écouter, page, il suffit de demander radiolac.ch ou l'application Radiolac. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Sophie.
Allez, au revoir.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch. So right.
le statoscope de Fabien et Carole.
Le statoscope, c'est chaque jour une étude à laquelle on s'intéresse, une étude qui parle de douleur aujourd'hui.
Exactement, tu sais ce qu'on dit Fabien, hein, la musique adoucit les mœurs.
C'est vrai.
Exactement, ouais. Et du reste, on peut lui attribuer aussi d'autres pouvoirs assez insoupçonnés, celle d'apaiser la douleur,
ah bon,
par exemple. Ouais. Alors cette question, vous l'êtes sûrement posée lors de votre dernière rupture amoureuse, hein, après avoir écouté votre playlist Bad Mood en boucle, hein, parce qu'on a envie que de ça généralement, hein, quand on a mal un petit peu au cœur, parce qu'on est un petit peu... des cœurs d'artichaut, c'est d'écouter de la musique triste, forcément.
Mais oui, c'est vrai, ça.
Et bizarrement, après coup, vous vous êtes senti beaucoup mieux. Et bien, d'après une récente étude, et bien, justement, écouter de la musique Bad Mood agirait comme un antidouleur naturel.
C'est-à-dire que on est triste, on écoute de la musique encore plus triste, et bien ça permettrait d'aller mieux.
Exactement.
Incroyable.
C'est exactement ça. Pour mesurer l'efficacité de cet antidouleur naturel, nos universitaires donc ont invité 70 participants justement en bonne santé à se rendre dans un de leurs laboratoires, et sur place, et bien il y a eu plusieurs groupes forcément, ceux qui ont écouté de la musique Good Mood. Moi, je serais plutôt tentée d'aller vers la musique Good Mood.
Bah, je pense.
Et
ouais,
ceux
aussi,
qui ont écouté la musique Bad Mood, eh bien, c'est assez rigolo parce que véritablement, les faits sont là. Toutes les personnes qui ont écouté de la musique Bad Mood se sont senties beaucoup mieux.
Donc, c'est la recette finalement pour éviter cette douleur sentimentale à la suite d'une rupture. Eh bien, c'est d'écouter des chansons tristes.
Soigner le mal par le mal.
Bah,
tu vois, généralement, quand tu as.
C'est ce qu'on dit souvent avec l'alcool. Hein.
C'est ça. Ouais. Bah, justement, après une grosse soirée, généralement, le lendemain, tu rebois une petite bière et ça va mieux. C'est un petit peu pareil, mais pour le coup, avec la musique et la douleur. Et quand je parle de douleur, je parle notamment d'une histoire qui se termine.
Ouais, ou ça peut être un petit coup de mou, un petit coup de déprime, on en
c'est
parlait
ça,
hier.
Déprime saisonnière, hein.
Voilà, donc ça peut aider finalement de la musique triste, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça peut permettre d'aller mieux.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac. Moving in circles like a ring of smoke, gritting the truth between my teachers like a centiphone. They're saying they're the truth and I'm the joke. It's like I'm already dead, moving from day to day. Reality replay, lungs made of lead. They say it's all in my head. If only they would listen to me, they would understand my side. But I'm tripping off it anyway. Sugar, I can taste it. My ankles tied to bricks. I'm inching in, but will take so much pride in your tricks. Pretentious little boys, open up the palms of your disguised hands. Show me your world that I like to live in. You softly me about how I should sign the deed, and I'll get what I need. Just trust in me. Tell me, validate my burdens, and know just how to bury them. Then you'll win. I'm backpedaling through everything. Shaking in a lucid dream, I'm face down on the pavement. It's sweet sugar, I can taste it. My ankles tied to bricks, I'm inching in, but will take so much pride in your tricks. Pretentious with all your skill, you tell me you'll never have it without this. I'll never really. I will never leave if you don't trust in me. Back. demander sur Radio Lac.
C'est du sport.
C'est du sport.
Du sport avec Patricia Bongini. Bonjour.
Bonjour Sophie.
Alors on encourage beaucoup les gens à pratiquer un sport comme la course à pied par exemple, mais on parle moins souvent de cette dépendance à ce sport.
Hein. Et oui, c'est tout à fait juste Sophie. C'est un thème qui est rarement abordé, car dans l'esprit de chacun d'entre nous, finalement, pratiquer la course à pied, c'est se faire du bien, c'est prendre soin de sa santé tant mentale que physique. Et du coup, vu que c'est bon pour la santé, eh ben on ne s'en prive pas et on devient boulimique de course à pied.
Alors c'est vrai, je m'étais jamais posé cette question-là. Alors je suis plutôt admirative de tous ces surhommes et ces surfemmes qui enchaînent marathon et distance ultra sans jamais avoir pensé à l'addiction, Patricia.
Et oui, le sport pratiqué de façon maladive est de plus en plus fréquent finalement dans nos sociétés. Hein. Le dépassement de soi continuel entraîne parfois une réelle dépendance sportive. D'ailleurs, cela a un nom, il s'agit de bigorexie, qui est un terme d'ailleurs très récent, reconnu par l'OMS en 2011 comme étant une maladie à part entière qui touche nombreux sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Et la course à pied, malheureusement, n'est pas d'exemple.
Alors, à partir de quand peut-on dire qu'un coureur est atteint de bigorexie ?
Alors, selon le dictionnaire, la définition stricte, c'est lorsque le coureur éprouve un besoin compulsif de pratiquer la course à pied de manière intensive en vue d'obtenir une gratification immédiate.
D'accord, mais concrètement, si la bigorexie est une maladie, y a-t-il des symptômes permettant d'affirmer que telle ou telle personne est atteinte de cette maladie ?
Eh oui, Sophie, il y a des symptômes. Un des premiers symptômes est l'altération de notre propre personne. Par exemple, un très grand sportif peut penser qu'il est trop gros, ce qui visuellement n'est pas le cas. Un deuxième symptôme, c'est que sa vie tourne 100% autour du sport. Il part en vacances, il va faire donc de la course à pied, il achète de la littérature course à pied, il mange, uniquement ce qui est conseillé pour la course à pied. Enfin, toute sa vie tourne autour de la course à pied. Le troisième symptôme qu'on peut trouver dans ce genre d'addiction, c'est une réduction de la vie sociale, mais de façon drastique.
Le repli sur soi-même, quoi.
Complet. Pas de vie de famille, pas de copains, etc. Au fur et à mesure. Et puis, la perte complète de plaisir à s'entraîner. On s'entraîne de façon mécanique, on fait toujours les mêmes exercices et puis on a perdu évidemment le plaisir. Et dernier point, peut-être le pire, c'est l'abstraction totale des alertes de blessures. On n'écoute plus son corps et on ne prend plus des moments de repos pour récupérer.
Alors comment est-ce qu'on peut sortir de cette bigorexie lorsqu'on est un coureur ou une coureuse acharnée
Oui, alors bon, il n'existe malheureusement pas de doliprane comme pour la grippe, ce serait bien. Si on est atteint donc de bigorexie, eh bien je vous conseille, pour vous en sortir, déjà de réduire drastiquement le processus de bigorexie, c'est-à-dire de réduire lentement l'activité sportive et évidemment de faire appel à un psychiatre qui est addictologue par exemple, ou un comportementaliste.
Oui, alors beaucoup de coureurs sont-ils bigorexiques ?
Oui, alors c'est une bonne question parce que 15% de la population non professionnelle pratiquant donc le sport et des activités physiques serait dans une situation d'addiction. Mais attention, ne sont recensés que les cas déclarés. Il est clair que ce pourcentage avoisine probablement largement le double, voire 30% de cette population.
Alors, il faut rester vigilant et j'ai envie de dire, pratiquer la course à pied avec plaisir, loin des comportements obsessionnels et compulsifs afin de s'assurer que ce courir contribue positivement à notre bonne santé physique et morale.
Et voilà, les deux sont liés.
Bravo, merci. La prochaine fois, on appellera cette chronique testostérone.
Exactement. On peut y aller, Sophie.
Alors, vous allez retrouver en podcast sur radiolac.ch. Si on veut des renseignements sur les cours, c'est Running Geneva.
Oui, runninggeneva.ch et on a toutes les informations.
Et je vous dis à tout bientôt. Merci, c'était Patricia Bongini.
Le meilleur de Lac en replay
sur la nouvelle application Radio Lac.
Something in everyone looking for a lonesome place. I find mine one song at a time. I've been listening for your voice, looking for the lost fingerprints. But they're gone, but they're gone. I look through the cracks in the leaves, working on spelling out things. Man, can a woman and all your staring? could give me your far off stare. Package it up and send it with care. I could last 7 more years. I don't wanna let summer be over. I don't wanna let you go.
Radio Lac, retrouvez-moi sur Maman Pourquoi, le podcast éducatif et rigolo qui répond à tous les pourquoi et les comment de nos petits curieux.
Comment ?
Maman Pourquoi, c'est tous les mercredis sur vos plateformes préférées, sur le site et l'application Radio Lac.
Fabien et Carole.
Et l'étude du jour, Carole, s'intéresse aux messages que l'on reçoit, que l'on envoie via son smartphone. C'est une étude qui a été menée dans plusieurs pays, et notamment ici en Suisse. Messages vocaux en particulier. Est-ce que tu aimes bien en recevoir? Est-ce que tu aimes bien écouter les messages vocaux?
Moi, j'adore ça. En fait, je préconise plus le message vocal que l'appel, en fait, au final. Et du coup, je préfère. Je trouve que c'est plus rapide.
Et par rapport au texto, enfin au message texte?
Bah pareil, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société, on fait tout en même temps.
C'est
vrai. Donc le souci, c'est conduire, par exemple, et envoyer un texto, c'est pas possible.
Ça, il faut pas. Mais
c'est
normalement, même l'audio, il faut pas. Hein.
Normalement, il faut pas, oui. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, au feu rouge, tu peux éventuellement appuyer.
Faire
ton petit audio. Qui ne le fait pas?
Moi, j'avoue que par fainéantise, je préfère les messages audio aux messages texte. Ouais. Eh bien, sache que il va falloir peut-être changer un petit peu nos habitudes, Carole. Cette étude nous fait prendre conscience que près d'un Suisse sur deux déteste recevoir des messages vocaux. C'est-à-dire une personne sur deux en Suisse est exaspérée par le fait de recevoir des messages vocaux.
Ah bon ?
Ouais. Et ça, je m'en rends compte. Tu vois, quand j'envoie un message vocal et que la personne me répond par un message texte.
Ah, c'est
très
vrai?
Bref.
Ah ouais?
Et ça, je me dis, oui, finalement, peut-être que cette personne n'aime pas les messages audio.
Ah ouais, peut-être.
Bon, et ce qui fait de la Suisse le premier pays, en tous les cas en Europe, hein, si on place la Suisse évidemment avec le reste de l'Europe, c'est le premier pays qui déteste, où ses habitants détestent recevoir des messages audio.
Ça m'étonne pas, parce que je pense que les gens disent, oui, c'est pas convivial, alors que véritablement un petit message texte, c'est peut-être un petit peu plus prendre du temps pour l'autre.
Oui, c'est vrai. Avec toujours le risque de faire des fautes de frappe, d'avoir des choses qui ne sont pas forcément bien comprises.
Une personne sur deux, ça veut dire qu'en fait, si on passe la porte de ce studio, typiquement, sur deux collègues, il y en a au moins une qui déteste ça. Quoi.
Exactement. Et je me dis que j'envoie beaucoup de messages audio à plein de personnes et que sur tous ces messages que j'envoie, il y a forcément une personne sur deux qui déteste recevoir mes messages. Voilà. Donc, j'ai une pensée pour toutes ces personnes.
On s'envoie beaucoup de messages vocaux tous les deux. Sache que je ne déteste pas parce que je suis pareil.
Donc ça veut dire que l'autre personne à qui j'envoie beaucoup de messages audio peut-être n'aime
pas
ça.
C'est elle, à mon avis, oui, exactement.
Mais après, je peux comprendre. C'est vrai que le problème du message audio, c'est qu'il faut être dans de bonnes conditions pour pouvoir l'écouter.
C'est ça.
Tu vois, tu peux pas le faire n'importe où.
Moi, je fais un petit clin d'œil à notre chef Lionel qui nous fait régulièrement aussi des messages vocaux.
Ouais.
Lionel, quand tu fais un message vocal, faut pas faire 15 trucs à la fois. C'est, en fait, c'est ça le truc. Parce que Lionel,
il perd le fil.
T'es avec lui dans la voiture, t'es avec lui. Oh, mais alors celui-là, il a du mal à se garer. Non, mais en fait, droit au but, vraiment.
C'est vrai qu'il nous raconte sa vie dans ses messages, mais ça fait aussi partie du personnage.
C'est
voilà.
Ça.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.
So
Cause
sur Radio Lac.
C'est le jardin cette semaine avec Pierre-Yves Bovigny, maître d'enseignement à l'EPIA. On va parler de ces plantes qui sont interdites en Suisse. Vraiment, il y a des plantes interdites en Suisse.
La loi est partout, les interdictions sont partout, et même dans le domaine des plantes, depuis le 1er septembre, 53 plantes sont interdites en Suisse.
Mais des plantes qui sont assez connues quand même ou...
Alors, extrêmement connues, par exemple la laurelle. Vous savez que toutes nos haies qui entourent les propriétés privées, on a beaucoup mis des thuyas.
Oui.
Et comme les thuyas avaient une maladie assez importante depuis très nombreuses années, ça a souvent été remplacé par des laurelles. Et ces laurelles sont dorénavant interdites.
Alors bon.
Alors on n'a pas besoin d'arracher celles qui existent. Non. Et on va expliquer pourquoi. Ces 53 plantes interdites à la vente, à la commercialisation et à la plantation le sont parce qu'elles sont invasives. Les plantes invasives sont des plantes qui viennent de régions qui ont un climat à peu près identique au nôtre, qui vont pouvoir se développer chez nous, mais qui n'ont naturellement aucun ennemi naturel chez nous et qui vont faire plein de dégâts sur notre environnement, notamment celle de concurrencer la végétation locale, donc diminuer la biodiversité, celle de perturber les écosystèmes, celle, imaginez par exemple une pente avec des plantes de chez nous qui retiennent la forêt. Celles sont remplacées par d'autres plantes, c'est le cas notamment au Tessin, avec le fameux palmier du Tessin, qui colonise les forêts tessinoises, mais qui n'a pas du tout de racines, très peu, et qui n'ancre plus les falaises, enfin les pentes, et qui provoque de l'érosion. Donc toutes ces plantes dites invasives, elles rentrent en concurrence avec la végétation locale, et c'est la deuxième cause de disparition des espèces dans le monde, vivantes, animales et végétales.
Ah oui.
La première, c'est la diminution des habitats naturels. Et la deuxième, ce sont les espèces envahissantes, invasives. Il y en a 1300 en Suisse d'espèces exotiques. Sur les 1300, il y en aurait 200 qu'on appelle envahissantes, dont 90 plantes. Bien sûr, ces 90 plantes envahissantes, 53 sont interdites dorénavant. Alors, on l'a dit, il y a le palmier du Tessin, le palmier à chambre, il y a la laurelle, le laurier cerise, mais il y a aussi le lilas d'été, le buddleia, l'arbre papillon. Il y a énormément de plantes comme ça qu'on ne veut plus, pour plus qu'elles fassent ces dégâts, donc, comme on l'a dit, environnementaux. Imaginez que rien qu'en Europe, les dégâts liés aux plantes envahissantes, enfin aux organismes exotiques envahissants, c'est 26 milliards de francs par année en Europe.
Ah,
donc,
oui.
On parle pas d'une petite chose. On parle vraiment de la mise en danger de notre environnement. Donc, voilà, la
c'était
loi.
C'était essentiel de.
Oui, ça faisait donc déjà de nombreuses années qu'il y avait ce qu'on appelait en Suisse une blacklist, une liste noire de plantes qu'on ne voulait pas, 23 plantes, puis une liste de surveillance des plantes qui vont devenir envahissantes. Ça aussi, cette liste est évolutive, 53 plantes, ça ne va pas s'arrêter là. D'autres vont se rajouter au fur et à mesure. Mmh. On a de plus en plus d'échanges dans le monde, naturellement.
Ouais, ouais.
Donc de plus en plus de plantes qui vont s'installer, qui ne sont pas de chez nous, et qui créent des problèmes. Donc voilà, depuis le 1er septembre, on ne peut plus planter de haies de laurel. On ne pourra plus non plus remplacer une laurel qui séchera dans sa haie, par exemple. On va vraiment s'orienter vers autre chose, notamment.
Bon. Écoutez, merci beaucoup pour ces précisions, pour ceux qui l'ignorent, mais c'est important. Vous pouvez réécouter en podcast, bien évidemment, sur radiolac.ch, la page, il suffit de demander, ou sur l'application Radiolac. Pierre-Yves, je vous dis à tout bientôt. Merci pour ces bons conseils et puis ces infos qui sont très utiles. Merci beaucoup, à bientôt.
Bonne journée.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radiolac.
Dans cette émission d'intelligence artificielle, de sa place toujours plus importante dans notre quotidien, dans nos vies, dans nos sociétés. Les politiques s'y intéressent évidemment beaucoup. On se souvient de ce sommet qui avait lieu il n'y a pas si longtemps. Eh bien, j'ai trouvé ce matin 5 domaines, 5 choses dans lesquelles l'intelligence artificielle nous aide déjà un petit peu. Alors moi, je ne suis pas forcément un fanatique de l'intelligence artificielle. Et puis, je me dis, on ne sait pas trop ce que ça nous réserve, tout ça. Hein. Ouais. Peut-être qu'un jour, ça finira par nous remplacer. Mais il y a quand même des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle nous aide au quotidien, notamment quand l'intelligence artificielle fait des tâches rébarbatives à notre place. Alors il y a plein de choses dans lesquelles l'intelligence artificielle intervient, notamment trier et organiser des données. C'est de plus en plus le cas dans nos ordinateurs, dans nos smartphones également. Quand on va chercher quelque chose, et bien grâce à l'intelligence artificielle, on peut assez facilement retrouver un fichier, une photo, un email, un message grâce à l'intelligence artificielle.
Ouais, et quand on n'est pas très très organisé, ça peut rendre bien des services.
Exactement, et c'est aussi de l'intelligence artificielle qui nous aide à trouver des contenus cohérents quand on fait des recherches sur Internet. Voilà, on n'y pense pas toujours, et pourtant c'est bien de l'IA qui se cache derrière.
Cohérent ou incohérent,
oui,
alors, ça peut arriver aussi.
Ça fonctionne
hein.
Pas toujours, on ouais. Est d'accord. L'intelligence artificielle peut aussi, dans certains cas, aider à trouver l'amour, puisque, on ne le sait peut-être pas, mais les applications de rencontres, hein, les plus connues, Tinder, Mythic et compagnie, eh bien, sont basées sur des intelligences artificielles qui sont censées mettre en faire matcher exactement
des
profils qui se ressemblent. Voilà, donc si vous trouvez l'amour grâce à une application, vous pourrez peut-être remercier l'intelligence artificielle. Quand une intelligence artificielle fait la playlist d'une soirée à notre place, faut dire que c'est quand même vachement pratique. Hein. On a connu une époque, quelques années, voire
on
quelques décennies.
On cherchait les chansons.
Bah oui, ah oui. Il fallait changer le CD, ouais. Il y avait toujours des blancs entre les chansons. Aujourd'hui, maintenant, les plateformes de streaming permettent de développer des playlists, se basent par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on écoute durant la soirée, pour en faire une playlist tout à fait cohérente.
C'est
et
vrai.
Qui va plaire à tout le monde. Tout ça, généralement, bien mixé, bien propre, et on n'a pas à s'en occuper. On lance le truc en début de soirée, on laisse faire et terminer.
Ou sinon, il y a Lac Fever. Hein.
Oui, exactement.
On est d'accord. Hein. Là, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a Arnaud Godefroy là derrière, et je peux vous dire que c'est quand même canon.
Je croyais que tu allais dire qu'il n'y avait pas d'intelligence du tout.
Non. Il y a du talent.
Évidemment. Quand les intelligences artificielles nous aident à retoucher une photo, ça aussi, hein, bien pratique quand on veut cacher ses cernes ou ce petit bouton qui gâche un petit peu le portrait.
Ouais, mais c'est trop là.
Des fois, c'est trop.
C'est trop.
Il faut
c'est trop,
utiliser
d'ailleurs.
Avec subtilité.
Hein. On n'a plus de port de la peau en fait, c'est terminé. On a la police et là, tu te dis, ah ouais, il y a quand même un truc. Hein.
Ou comme les influenceuses de 50 ans sur Instagram qui en paraissent 30 de moins,
hein,
grâce
ouais.
à ces fameux filtres. Et puis enfin, ça, c'est bien pratique. Et en plus de ça, c'est écologique. Quand l'intelligence artificielle nous aide à faire des recettes de cuisine avec ce qui nous reste dans les placards
ah ouais.
et dans
ah
le frigo.
Ouais.
Ça, c'est bien. Et
oui.
ça, franchement, tu vois, c'est une application de l'intelligence artificielle, l'un des domaines qui me semble tout à fait intéressant et qui sert véritablement à quelque chose. Il y en a plein d'autres, dans le domaine de la santé notamment. Mais ça, c'est concret, on peut l'utiliser au quotidien.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur la nouvelle application Radio Lac.
entendez sur Radio Lac,
c'est du sport.
C'est du sport.
Bonjour Douchane Vegesi.
Salut Sophie.
Ça vous va bien le bleu comme
merci,
ça.
C'est gentil.
Ouais, c'est super, ça va très bien avec le studio et tout. Alors attention, des erreurs de débutants, on en fait tous quand on débute le sport. Un jour matin, on se lève, on se dit « Oh bah dis donc, je vais faire un petit peu de sport. Peut-être je vais aller à la salle, peut-être je vais le faire chez moi en regardant des vidéos sur YouTube, ça arrive, hein,
oui,
sur TikTok.
Oui, ça arrive,
voilà, c'est même très commun.
C'est très fréquent, oui.
Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on débute, Douchane?
Alors, la première... Et la plus grave, c'est l'exécution du mouvement.
Ah là 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 là, il faut bien suivre les règles.
Bien sûr.
Bien écouter les coachs.
Bien sûr, tout à... parce que sinon tu risques la blessure.
Bah,
on n'est pas là pour ça, on est là pour
non.
se faire du bien-être.
C'est sûr.
Donc si tu fais par exemple certains mouvements d'une manière fausse,
ouais.
ça peut être dangereux aussi.
Ouais, ouais.
Par exemple, je te prends un exercice, par exemple le soulevé de terre,
ouais.
qui est un super exercice parce qu'il est pluriarticulaire.
Pluriarticulaire, oui.
Et bah par exemple, si tu le fais mal, tu peux mettre énormément de tension au niveau des vertèbres et avoir des problèmes.
Ouais. J'ai envie de te dire, les abdos, c'est un peu pareil. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans les abdos.
On peut pas faire. Ouais, mais le
on peut se faire mal au cou, on peut se faire mal.
Bien sûr, tout à fait. Ça, c'est sûr. Mais le problème, c'est que là, tu vas chercher avec du poids.
Et
Tu vas risquer la blessure.
Ouais.
Surtout sur un exercice qui est censé donner du bien-être, développer du collagène, des hormones, te faire du bien.
Ouais.
Bah là, tu risques de te faire énormément de mal parce que tu vas mettre énormément de pression et sur les dernières vertèbres.
Alors, il faut savoir que si c'est un exercice qu'on fait à la salle, il y a le coach qui peut nous
évidemment,
aider.
Évidemment, il y a le coach qui est là en salle pour vous demander, pour vous montrer, poser-lui les questions. Il est là pour ça. Les charges, surtout. Tu sais, par exemple, ça, c'est quelque chose que je voyais quand je travaillais dans les fitness. C'est les gens, ils veulent trop charger, trop impressionner.
Pas trop de charges. Commencez doucement.
Faites-le bien. Faites une bonne manière, une bonne exécution, une bonne amplitude de mouvement. Tu vois, on revient à ce que j'avais dit
bien
plus
sûr.
Tôt. Une bonne amplitude de mouvement et une bonne exécution de mouvement. Et petit à petit, après, on charge. Tu vois et après, on peut charger un peu plus quand on est un peu plus à l'aise, etc. Et
évidemment.
Tout. Et surtout, ça, c'est surtout que je vois beaucoup dans les débutants, c'est « Ah, ça fait 3 semaines que je suis mis au sport, j'y vais 3 fois par semaine, j'ai rien. »
Voilà, mais c'est pas tout de suite.
Ah non, malheureusement,
il faut
non.
Des années gens, pour
il faut
se faire un
corps de rêve. Il faut être patient, et puis il faut être discipliné, tu sais, Sophie-ci. Pendant, je sais pas, mais pendant toutes tes années, t'avais des mauvaises habitudes, tu mangeais mal, et tout, tu sais, ton corps, il enregistre ça.
Alors, une autre erreur très fréquente
alors,
des débutants.
Une erreur très, très fréquente, alors que je vois surtout, c'est... la forme des mouvements, l'exécution, comme je t'ai dit, et surtout vouloir aller trop, trop vite.
Ouais.
Tu vois
c'est la patience, en quelque sorte.
C'est la patience, parce que, par exemple, tu vois, moi, j'ai vu des gens qui ils ont commencé à vouloir charger, tu vois, par exemple, prendre le plus lourd. Alors, non seulement la forme n'était pas bonne, mais l'amplitude, elle était horrible. Enfin, tu vois, tu vas pas aller congestionner ton muscle comme il faut, tu vas pas aller le travailler, tu vas juste faire des petits mouvements. Et j'en vois beaucoup, surtout des débutants, faire ça. Ben en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, le poids c'est une chose, mais faites bien votre forme. Arrêtez de vouloir prendre des poids pour impressionner des gens dans la salle. Ça, c'est vraiment quelque chose. Tu vas dans une salle de fitness, tu t'assois, tu le vois.
Ah ouais, tu regardes pendant des heures, tu as toujours ça. Ouais.
C'est une exécution d'amplitude à 50% de l'amplitude que tu devrais donner. C'est totalement faux en fait. Vous perdez. En fait, si vous voulez, c'est mieux de faire une répétition avec une belle amplitude que 5 répétitions avec une amplitude pourrie.
Tu vois. Et puis, donc, la patience, hein, c'est le...
Et aussi, par exemple, pour ça, qu'est-ce qui est plus intéressant dans un entraînement? Est-ce que c'est l'intensité ou la fréquence de l'entraînement? J'ai envie de te dire la fréquence.
La fréquence,
Donc, tu vois, ça veut dire qu'il faut aller plusieurs fois s'entraîner.
Alors, déjà, soyez patient.
Soyez patient.
Pour se faire un corps de rêve, pour perdre un peu, pour sculpter le corps, ça se fait pas en 3 semaines. Faites gaffe, déficit calorique, un petit peu quand même,
voilà.
Parce que on se dit, tiens, j'ai été courir pendant 1 heure ou j'ai été à la salle pendant 1 heure, je vais pouvoir manger un bon petit gâteau. Non, c'est faux.
C'est faux, c'est faux. Après, ça dépend de ce qu'on cherche, si c'est de la prise de masse, si c'est...
Ouais, bien sûr. Donc, en tout cas, écoutez les conseils du coach, allez le voir aussi à Studio GV à Opaki. C'est Douchane Vegesi. À retrouver en podcast radiolac.ch. Pas la semaine prochaine, dans 10 jours.
Dans 10 jours.
Salut Douchane, ciao.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.
Yeah.